Le parti pris des sons ce mercredi soir à 20h à l'Athénéum, autant dire au pôle culturel de l'Université de Bourgogne. Vincent Raphaël Carinola, il s'agit de présenter le travail effectué par vos élèves à l'ESM Bourgogne-Franche-Comté en électroacoustique.
Oui, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière les termes musique électroacoustique. À l'ESM, on fait un travail très particulier autour de la création musicale et en particulier autour de la création musicale en lien avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'électroacoustique. C'est un domaine très large qui a commencé à se développer surtout après la Deuxième Guerre mondiale en France autour des figures comme celle de Pierre Schaeffer ou de compositeurs comme Pierre Henry et d'autres jeunes compositeurs qui les ont rejoints très rapidement. Et puis au sein du centre des créations, dont le plus connu c'est l'IRCAM, mais il y a aussi en France le GRM, le GRAM, en fait dans toutes les grandes régions françaises, vous avez des lieux dans lesquels se retrouvent des compositeurs, des interprètes pour travailler au développement de nouvelles formes musicales en explorant ce que les technologies nouvelles proposent comme pensée musicale, comme idées poétiques, comme outils d'écriture nouveaux. Ce sont des univers à explorer absolument passionnants.
Est-ce que vos instruments, j'y mets des guillemets, n'ont pas
Ouais.
plus évolué encore qu'entre un piano du 19e siècle et un piano d'aujourd'hui, depuis les années 70, où on travaillait essentiellement la bande magnétique, et aujourd'hui où j'imagine que vous avez un peu oublié ce support-là?
Ben, c'est une très bonne question parce que effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de ces technologies-là comme étant l'équivalent des instruments traditionnels. Une des raisons importantes à laquelle vous faites référence, c'est l'obsolescence rapide des nouvelles technologies, en particulier aujourd'hui. On le connaît, on le sait, tout le monde est confronté à ces problèmes des technologies numériques. Nous n'avons pratiquement aucun objet, appareil numérique qui ait plus de 10 ans. Et donc, effectivement, l'univers de ce qu'on appelle les musiques électroacoustiques est un univers qui est toujours en perpétuelle évolution. Ceci dit, vous avez un certain nombre de permanences qui existent, qui sont là, par exemple, la capacité d'enregistrer un son et de le manipuler. Que ce soit avec un magnétophone à bande, que ce soit avec un ordinateur, que ce soit avec n'importe quel type de support, cet acte-là qui est vraiment nouveau dans l'histoire de la musique, enfin dans l'histoire de l'humanité, qui consiste à capter un son et à pouvoir ensuite le manipuler directement sur un support. Ça n'a pas varié. C'est quelque chose qui existait au début du XXe siècle et qui existe toujours aujourd'hui. Bien sûr, la qualité des écouteurs, des microphones, etc., tout ça évolue. Mais la logique qui consiste à manipuler des sons indirects, elle n'a pas été modifiée. Si on prend par exemple des appareils comme les appareils de synthèse, finalement, ça ne change pas tellement par rapport à la pensée du son synthétique tel qu'existait par exemple dans les années 70 ou 80 avec des appareils analogiques, avant même l'existence de l'ordinateur. Et donc, c'est vrai qu'il y a une évolution des outils techniques, et en même temps, il y a certaines permanences dans les pratiques musicales qui nous entourent. Et nous, par exemple, aujourd'hui, on accède plus souvent à des œuvres enregistrées qu'à des œuvres en concert. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est lié forcément à l'ordinateur. C'était déjà le cas dans les années 70 avec les disques vinyles.
Vincent Raphaël Carinola, je posais la question au professeur et j'ai le sentiment que c'est le compositeur que vous êtes aussi qui me répond. Qu'est-ce qui attire vos élèves à l'ESM, mais vous n'enseignez pas que là, à Dijon, qu'est-ce qui attire vos élèves vers cette pratique, alors qu'il n'est pas vraiment une pratique instrumentale tout en l'étant un peu?
Oui, c'est vrai que à Dijon, à l'ESM, il n'y a pas, à la différence d'autres établissements supérieurs, il n'y a pas un département de composition, il n'y a pas un département de création qui existe en tant que tel, identifié comme tel. Tous les étudiants qui travaillent avec moi sont des étudiants instrumentistes, interprètes. Ils viennent à l'ESM pour obtenir un diplôme soit d'enseignant dans leur spécialité instrumentale, soit pour obtenir un diplôme spécialisé des musiciens-interprètes, ça s'appelle comme ça, ou chanteurs, dans le domaine de ce qu'on appelle la musique classique contemporaine. Et donc, ce sont la plupart des étudiants qui ont eu un accès à la musique à travers, bien sûr, leur instrument et un répertoire. Ce sont des jeunes musiciens aussi qui sont très curieux et qui voient très bien que cette pratique-là, qu'ils ont eu ces enseignements qu'ils ont reçus, la plupart, hein, parmi eux, qui est un enseignement, disons, classique, de musiciens classiques, ne concerne pas toujours les pratiques actuelles, les pratiques contemporaines. Et ils sont conscients, ils sont curieux, et ils voient très bien que dans leur avenir, que dans le développement de leur propre métier, la connaissance des pratiques actuelles et donc des techniques actuelles, puisque les deux choses sont inséparables, est quelque chose d'important. Et donc, pour beaucoup d'étudiants de l'ESM, avoir la possibilité de pouvoir développer, d'une part, des projets autour de ces techniques-là, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cet aspect-là, surtout de développer des projets personnels, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas uniquement des pièces d'autres compositeurs, ils se mettent eux-mêmes à la place du compositeur. Ils entrent dans l'atelier du compositeur, ils développent leur propre mode d'expression, si on veut, en s'appuyant sur l'exploration de ces nouvelles techniques. Et donc, on a de la chance à l'ESM, je pense que c'est un peu comme ça partout, d'avoir un grand nombre d'étudiants qui sont avides de ce type de rencontres et de ces explorations nouvelles.
Que va-t-on pouvoir entendre donc ce mercredi soir à l'Athénéum à Dijon? Est-ce qu'on est plus dans le monde de l'expérience ou déjà dans le monde du concert?
C'est aussi une des particularités de ces nouvelles technologies, c'est d'avoir en quelque sorte aussi modifié les formes des concerts. Le concert classique, comme le spectacle vivant traditionnel, se déroule, disons, dans une forme bien connue qui consiste à avoir sur scène un musicien et puis dans la salle du public. Il y en a comme ça une écoute frontale qui est la situation classique du spectacle vivant. Or, une des particularités de ce qu'on appelle les musiques électroacoustiques, c'est le fait d'être spatialisé. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ce qu'on appelle des dispositifs de spatialisation du son, c'est-à-dire des sortes d'orchestres de haut-parleurs qui sont non seulement devant l'auditeur, mais tout autour de l'auditeur, de telle façon que l'auditeur se trouve plongé dans un espace sonore. Certains appellent ça l'écoute 3D, à trois dimensions. Vous avez des sons qui viennent de devant, du côté, de derrière. Et donc, ce n'est pas simplement un effet sonore, ce n'est pas simplement quelque chose d'un peu gratuitement spectaculaire. C'est aussi un support aujourd'hui d'écriture pour le compositeur, l'espace, c'est-à-dire les trajectoires sonores, le fait que certains sons vont se placer dans un lieu spatial différent de tel autre, ce qui permet de créer des formes sonores nouvelles. Et donc, ce que vont faire les étudiants ce mercredi à l'Athénée, pour la première fois, c'est de présenter leurs œuvres en concert, qui sont des œuvres pour instruments, la plupart, hein, ce sont des œuvres pour instruments et dispositifs électroacoustiques. C'est-à-dire, c'est une des propositions qu'il leur a faites, c'est d'écrire des œuvres qu'ils vont interpréter eux-mêmes, par exemple une pièce pour flûte et dispositif électroacoustique. Ce sont des pièces dont ils prennent en charge toutes les étapes de réalisation, c'est-à-dire la partie instrumentale, la partie électroacoustique, la réflexion sur la façon dont on peut agencer les deux, et puis aussi l'interprétation, puisqu'ils jouent les pièces. Et en partie, il y a aussi des étudiants qui vont les spatialiser. Et donc, ça veut dire qu'on se situe là en concert, dans ce type de concert, dans un format assez particulier dans lequel vous avez à la fois quelqu'un sur scène qui est en train de jouer et un environnement sonore avec des sons qui viennent d'un peu partout, qui enveloppe le public. Moi, je compare ce type de situation à l'opéra, où vous avez des personnages sur scène et la musique dont on ne voit pas trop d'où elle provient. On ne voit pas l'orchestre qui est dans la fosse. Et donc, on est dans des formes des concerts qui sont très intéressantes parce qu'il y a quelque chose d'un peu dramaturgique du fait d'avoir à la fois un musicien sur scène qui est en train de jouer, qu'on voit jouer, et puis tous ces sons qui l'entourent, qui parfois sont produits directement par des transformations du son instrumental joué en direct, mais quelquefois, et ça on l'entendra aussi dans les concerts de mercredi, ce sont des sons qu'ils ont fabriqués par ailleurs, ou des voix, ou des références poétiques. C'est des univers sonores complémentaires.
Vous parlez de références poétiques et justement, on associe une partie de ce concert à un poète contemporain qui est Francis Ponge.
C'est ça. En fait, chaque année, pour essayer de regrouper, de donner cohérence aux différents travaux que font les étudiants, que ce soit dans le domaine des musiques mixtes ou dans ce qu'on appelle aussi des musiques acousmatiques, parce qu'il y aura aussi des pièces dans lesquelles il n'y a pas des musiciens sur scène, et puis d'autres
Alors j'ai
travaux.
envie de vous demander une définition là, tout de même.
Oui. Alors, ce qu'on appelle des musiques acousmatiques, ce sont des œuvres, on appelle ça aussi simplement des pièces électroacoustiques, qui sont réalisées en studio et qui sont complètement fixées sur un support. C'est-à-dire que vous pouvez les écouter dans un dispositif de spatialisation qu'on appelle un acousmonium, sans avoir, il n'y a pas de présence scénique forcément. Vous asseyez, vous écoutez l'œuvre spatialisée. Et le terme acousmatique provient du grec, ça veut dire derrière un voile. C'est un terme qui vient des pythagoriciens. En fait, Pythagore faisait ses enseignements derrière un voile, car il pensait que cela permettait à ses élèves de mieux se concentrer sur le discours. Et cette idée, en fait, d'écouter la musique sans la voir, c'est une des propriétés de ces œuvres électroacoustiques dans lesquelles il n'y a pas de musicien sur scène. C'est aussi une situation qu'on vit couramment lorsqu'on écoute une musique les yeux fermés et qu'on se rend compte qu'on arrive à mieux parfois se concentrer, entrer dans le son. Et donc, quand vous avez des œuvres dont vous où il n'y a pas vraiment des instruments traditionnels, vous ne savez pas comment le son a été réalisé, ou parfois vous reconnaissez tel son de voix, un oiseau, la mer, le vent, eh bien tout ça va créer des images mentales qui font qu'on est dans une situation d'écoute assez particulière, qu'on a appelée acousmatique.
Revenons à Francis Ponge alors.
L'idée chaque année, c'est de proposer aux étudiants de s'inspirer d'une thématique. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans, nous avions travaillé autour des fleurs du mal. Je leur avais proposé de s'inspirer de ces poèmes-là ou de l'idée même de fleurs du mal. C'est vraiment un sujet qui est proposé d'une façon très libre, hein, pour que chaque étudiant puisse faire à la fois quelque chose de personnel, mais que tout puisse être fléché sur une même thématique, de façon à donner de la cohérence ensuite au concert. Et l'année dernière, j'avais proposé donc aux étudiants de travailler sur le parti pris des choses, de le recueil bien connu de Francis Ponge, et sur cette idée que quelquefois, un son qui peut paraître banal, une note, un instrument, un corps sonore quelconque, une casserole, je dirais même pour être un peu caricatural, peut contenir tout un univers sonore et musical qui peut être très intéressant à développer, pour peu qu'on essaie de bien l'approcher, de l'écouter et d'en faire quelque chose. Et c'est ce que fait Ponge dans son travail poétique, c'est de prendre comme sujet des objets extrêmement banals, un escargot, un cajou, la pluie, pour en faire, en les observant avec beaucoup de finesse, pour en faire des objets poétiques. Voilà, c'était ça la proposition qui était donnée aux étudiants. Et donc, certains, ils partent d'une idée, d'un son, d'un mode de jeu instrumental, qui peut être un souffle, un bruit, quelque chose d'extrêmement simple, qui parfois, a priori, on pense qu'il peut ne pas avoir beaucoup d'intérêt musical en soi. Et pour en faire quelque chose de vivant, de musical, de poétique, d'expressif, parfois ils vont directement s'inspirer du texte de Francis Ponge pour le prendre comme support phonétique, par exemple, en l'enregistrant, en travaillant la voix, ou simplement comme idée poétique qui vient illustrer ce qu'ils ont écrit musicalement parlant.
Vincent Raphaël Carinola, j'ouvre une parenthèse. C'est que les séquences qu'on a isolées au cours de notre conversation pour la ponctuer, puisque vous avez fait référence plusieurs fois au travail de l'année dernière, sont extraites de ce que vous avez pu enregistrer l'année dernière. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question, puisque tout le monde aujourd'hui nous parle d'intelligence artificielle, d'intelligence générative. Est-ce que le musicien a aussi en ce moment, comme dans beaucoup d'autres domaines, celui de l'écriture, celui de l'image, est-ce que vous avez aussi, vous, en ce moment, le sentiment d'être un peu à la croisée des chemins et finalement d'être remis en question?
Je pense que ça a toujours, c'est le cas depuis longtemps. C'est la même chose, en fait, lorsque l'enregistrement est apparu, pour les orchestres, c'était quand même quelque chose, c'était une menace, d'une certaine façon. Les premières recherches sur la synthèse, c'est quelque chose de très étrange, parce que les premières recherches sur la synthèse sonore, étaient effectuées dans des compagnies dont l'objectif était de produire à bas coût un maximum d'œuvres. Ils avaient par exemple répertorié toutes les règles des constructions des mélodies folkloriques du folklore nord-américain pour construire des machines qui pouvaient déjà presque algorithmiquement recréer des nouvelles chansons populaires automatiquement. C'est ce que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle aussi dans le domaine musical. Vous avez des machines qui vont analyser des tubes pour en recréer. Donc là, on a entendu récemment parler d'une reprise d'un morceau des Beatles, mais vous avez dans beaucoup de chez Sony, chez Google et d'autres grandes compagnies, beaucoup de travail autour des outils destinés donc à pouvoir facilement produire des produits de consommation. Voilà. Et en même temps, ces logiques-là que les machines analysent pour créer de nouvelles, elles existaient, elles étaient utilisées par les compositeurs depuis toujours. Sinon, les machines ne pourraient pas les modéliser. Et donc, on a toujours cette dualité entre ce qui est de l'ordre d'une sorte de travail automatique qu'on fait partout, mais aussi ce qui est de l'ordre de la découverte de nouvelles formes musicales qui émergent avec ces nouveaux outils. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, tout ce dont on parle aujourd'hui, elle sera toujours un tout petit peu en retard par rapport à tout ce que les artistes, dans tous les domaines, proposent en explorant ces nouveaux outils. Et même les outils d'intelligence artificielle peuvent être détournés au profit des formes complètement nouvelles auxquelles les fabricants même de ces algorithmes d'intelligence artificielle n'avaient jamais pensé, ils n'avaient pas envisagé. Donc cette idée de détournement des outils, elle existe aussi depuis toujours.
Le parti pris des sons, donc ce mercredi soir, c'est à 20h à l'Athénéum sur le campus de l'Université de Bourgogne. C'est gratuit et on met les liens sur le site de BFC Classique.